Humeur de ville, une émission présentée par cadredeville.com, la plateforme d'information des décideurs des projets urbains. Lucie Romano et Rémi Cambo.
Bonjour à tous, Humeur de ville vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'innovation dans l'aménagement en Île-de-France. Je reçois aujourd'hui Soraya Amrioui, la directrice générale adjointe de Grand Paris Aménagement. On va notamment parler de hauteurs, de déchets de chantier ou encore de renaturation. Avant ça, Rémi Cambo, le rédacteur en chef de Cadre de ville, nous parle de l'enjeu du ZAN dans la région Île-de-France.
Humeur de ville, l'édito de Rémi Cambo.
Oui, bonjour et merci Lucie, en effet, parce que le sujet du jour appelle à s'y pencher. La région Île-de-France, région capitale, est de ce point de vue, comme de bien d'autres, sans doute celle de tous les paradoxes. Et l'un, non des moindres, concerne la consommation des sols. On vient de le voir, avec la décision du Premier ministre d'autoriser l'aménagement de 110 hectares au triangle de Gonesse, alors que le rapport rendu à Barbara Pompili en juillet 2020 fléchait plutôt le choix du maintien de la vocation agricole des terres. Mais la région doit encore se développer, elle croît, et le besoin de nourrir la population a conduit la Semaris, gestionnaire de Rungis, à chercher un point de chute nouveau au nord, ce sera Gonesse. Alors cette vitalité régionale peut-elle être conciliée avec l'objectif de non-consommation de terres? Comment le fameux principe de zéro artificialisation peut-il s'appliquer? Bon, la région est déjà très artificialisée, selon l'Observatoire de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, l'ORENAF. 23% d'artificialisation, alors que la France entière, c'est 9,6% seulement. Et en cœur de métropole, on est à 90% d'artificialisation. Et pourtant, la consommation des espaces naturels ne cesse de ralentir en Île-de-France. Déjà en 2016, l'Île-de-France était stable quand le rythme France entière était de plus 6%. Alors on le devait à deux raisons, le recyclage urbain d'une part, la renaturation de l'autre. Alors peut-on aller plus loin? La région est plus vertueuse que le pays, mais elle veut aller plus loin. L'État et la région ont signé en mars la déclinaison francilienne du plan de relance, où ils décident de consacrer chacun au moins 300 millions d'euros supplémentaires en faveur du zéro artificialisation net. Un fonds friche de 80 millions d'euros sera également créé et les actions des deux grands partenaires se concentreront, disent-ils, dans les quartiers de gare du futur réseau Grand Paris Express. C'est sûrement positif, alors que le futur nouveau SDRIF, le schéma régional d'aménagement, va devoir ordonner la réduction de moitié du rythme d'artificialisation constaté depuis 10 ans. Mais nombreux sont les territoires de la région encore en situation d'étalement urbain. Si plus aucun ne l'était, a calculé l'Observatoire de la consommation des espaces naturels, si plus aucun ne l'était, on assisterait à une réduction de 24%, un quart de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers. Eh bien, on est encore loin du compte.
Humeur de ville, l'interview.
Soraya Amrioui, bonjour. Je le disais, vous êtes directrice générale adjointe de Grand Paris Aménagement. Vous avez avant cela été, au sein de GPA, déléguée à l'administration et aux finances des filiales, directrice territoriale Grand Paris Nord. Grand Paris Aménagement, l'ex-AFTRP, ce sont pas moins d'une centaine d'opérations actives et en développement et une vingtaine d'études urbaines dans toute l'Île-de-France. Vous intervenez en mandat pour l'État dans le cadre d'opérations d'intérêt national, en concession d'aménagement pour le compte de communes et d'intercommunalités ou encore en compte propre par prise d'initiative. Je vous propose de rebondir tout de suite sur cet enjeu du ZAN dont nous parlait Rémi Cambo et de celui de la densité ressentie. Après les élections municipales, certains projets que pilote GPA ont été réinterrogés par les nouveaux élus. Vous avez dû réouvrir pour ces projets le débat des formes urbaines notamment. Je pense en particulier à Neuilly-sur-Marne et l'opération sur l'ancien hôpital Maison-Blanche. À l'issue des discussions avec le maire, vous avez préservé davantage de bâtiments anciens et réduit la hauteur. Sur le site d'un autre ancien hôpital, au dans les Yvelines. Le projet aussi évolue. Un mot peut-être de la manière dont il évolue, ce projet au Vésinet, et au-delà sur la manière dont Grand Paris Aménagement réinterroge la hauteur, les formes urbaines et travaille la compensation et le ZAN.
Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec vous pour évoquer tous ces sujets très importants. Vous l'avez dit, les élections municipales sont un moment très important dans nos opérations d'aménagement parce que c'est un moment où on va re-questionner un certain nombre de sujets. Et finalement, dans le temps de l'aménagement des élections, il y en a un certain nombre qui peuvent se passer. Donc, c'est très important de garder la souplesse dans nos projets pour pouvoir nous adapter à ces nouveaux principes qui peuvent être souhaités par les élus. Et c'est vrai que tout particulièrement en 2020, le contexte social, environnemental, la crise sanitaire que nous vivons ont amené peut-être des changements encore plus profonds que ce que nous avions pu connaître lors des précédentes élections. Et vous l'avez cité, deux exemples, je trouve très, très clairs sur ces enjeux. La question de la densité est vraiment une problématique, une question qui se pose dans toutes nos opérations d'aménagement et particulièrement dans celles où on a un nombre de logements très important et encore plus peut-être dans celles où nous allons en extension urbaine proposer de nouveaux quartiers. À Maison-Blanche, le maire de Neuilly-sur-Marne a souhaité effectivement que nous nous réinterrogions sur non pas le nombre de logements de l'opération, je crois qu'on est en accord sur la nécessité d'aller produire du logement en Ile-de-France et le maire de Neuilly a envie de participer à ce développement, il a envie de proposer de nouveaux services et de nouveaux habitats, de nouveaux logements à sa population, mais peut-être sur la manière dont est organisé le quartier et effectivement la densité qui peut être proposée. L'enjeu, c'est peut-être que dans un site comme celui de Maison-Blanche, on garde l'idée première de ce projet, hein, c'était vraiment de venir habiter un parc, habiter un ancien hôpital et donc préserver finalement le capital de ce site. Donc le capital arboré avec une démarche qui a été particulièrement innovante sur cette opération d'aller construire autour des arbres et donc de partir vraiment de leur implantation, d'un objectif de conservation d'un maximum de ces arbres pour aller déposer les bâtiments. Donc c'est un exercice qui a été mené dans la première phase mais qui a vocation à être amplifié dans les phases à venir suite à la discussion que nous avons menée avec la ville, mais également d'aller préserver un certain nombre de bâtiments qui sont existants, ce qui présente des contraintes, c'est ce qui fait généralement d'ailleurs que ces choix ne sont pas retenus, des contraintes financières, des contraintes de pollution, des contraintes d'usage, tout n'est pas possible dans des bâtiments réhabilités, mais aujourd'hui on sent bien que la volonté politique de conserver ces sites est très forte et elle rejoint la volonté de l'aménageur. Donc,
pour le business, c'est le même cas de figure, on part aussi d'un parc habité, je suis en train de me dire que finalement c'est quand même peut-être un peu plus simple de re-questionner la question de la densité sur ce type de secteur où il y a beaucoup d'arbres, etc. Qu'est-ce qui peut en être sur des secteurs très denses, or moins pourvus d'une telle nature, par exemple ?
Sur le Vésinet, c'est encore un petit peu la même question. L'enjeu de la densité, il est aussi à mettre en regard de l'imperméabilisation des sols. Je crois que la préoccupation qui est celle du maire et des habitants, mais également de l'aménageur, c'est de trouver cet équilibre. On peut avoir envie de logement, on peut avoir envie de nature et ça implique parfois de densifier un petit peu ou de monter, d'aller peut-être sur plus de hauteur pour pouvoir préserver des terres naturelles. À l'inverse, sur d'autres sites, les enjeux seront différents. Donc, je ne sais pas si on peut considérer que c'est uniquement parce qu'on est sur des espaces déjà naturels qu'on va aller dédensifier. On peut avoir envie de respiration en ville sur des sites qui sont en restructuration urbaine. C'est quelque chose qu'on va aussi privilégier. Je crois que l'important pour nous, c'est d'avoir cette discussion avec les élus, avec les habitants et d'aller comprendre en fait quelle est l'histoire d'un territoire qui peut rendre possible telle forme urbaine ou telle autre. Je ne crois pas du tout qu'aujourd'hui le modèle ce soit le R+3 ou le R+7 parce que dans tel site il va falloir préserver les terres agricoles ou limiter l'imperméabilisation et dans d'autres où on va avoir des envies de périurbains. Je trouve que c'est un peu simpliste et qu'on aurait tort justement d'aller préconiser un seul modèle. Ça nous amènerait à des erreurs. Il faut qu'on travaille ces enjeux-là vraiment à la parcelle. En discutant systématiquement avec ceux qui vont la vivre. En
fait. Et pour le coup, au Vésinet, les habitants ont fini par accepter une hauteur supérieure, justement parce qu'ils ont préféré privilégier.
on les a mis au cœur du projet, en réalité, on leur a proposé d'aller eux-mêmes regarder comment construire le bâtiment, comment vivre cette densité. Et donc, ils avaient un exercice très pratique à faire, qui était celui de positionner finalement les mètres carrés qui allaient être construits dans le parc. Et ils se sont rapidement rendus compte que s'ils devaient positionner ces mètres carrés en se limitant à des hauteurs en R+2, en R+3, ça n'allait pas permettre de préserver des espaces naturels, paysagers, et donc on allait se retrouver avec une ville très horizontale et finalement assez minérale. Et donc le choix qui a été fait par la population, par les usagers du parc, c'est vraiment d'aller proposer un peu plus de hauteur pour préserver des espaces verts. Et ça, je trouve que c'est une manière très intelligente de faire la ville, qu'on a vocation à dupliquer partout où c'est possible.
C'est une méthode via la modélisation que vous allez faire prospérer dans peut-être pas de l'ensemble des projets, mais en tout cas, dès que vous avez à re-questionner la question de la densité, vous allez proposer cette formule aux habitants.
On essaye de le faire, on a vocation à le faire de plus en plus, et il y a des outils qui nous permettent d'y arriver plus facilement. Le développement du CIM, du BIM sont aussi des manières de faire entrer différemment les habitants dans les projets. Tout le monde n'est pas capable de lire un plan ou n'est pas forcément à l'aise avec des formats classiques de diffusion des savoirs, et je trouve que ces modèles-là peuvent permettre de toucher aussi de nouvelles populations plus jeunes, qui sont souvent plus férues de ce type de technologie.
Soraya Amrioui, quelle part doivent occuper les logements bioclimatiques dans vos opérations? Comment trouver les bons montages économiques qui le permettent? Je pense par exemple là à la construction bois sur le quartier des Frêlieux de l'écoquartier de Louvre-Puiseux en France, en lien avec l'opérateur Canéa. Comment trouver l'équilibre financier pour ce type d'opération?
C'est une très bonne question. Je crois qu'on essaye de le trouver tous les jours. Je ne dirais pas qu'on y est arrivé complètement. D'abord, il y a quand même un grand changement qui arrive, qui est devant nous. C'est la réglementation énergétique 2020, qui va obliger tous les opérateurs, les aménageurs, mais également les promoteurs, à changer leur façon de construire. Et donc, au-delà des labels que nous utilisons tous et sur lesquels nous essayons d'être précurseurs et de pousser à améliorer globalement la qualité énergétique et la qualité bioclimatique des bâtiments, des constructions, cette nouvelle réglementation va changer notre façon de faire. C'est vrai que l'exemple qu'aujourd'hui nous produisons déjà un certain nombre de logements très performants du point de vue environnemental et bas carbone, nous en sommes fiers, mais ça reste une part réduite de notre activité, notamment parce que nous nous heurtons à ces problématiques économiques. C'est une des vraies problématiques, mais également parce que les filières ne sont pas toujours structurées et ne permettraient pas de répondre à une demande massive. Et donc tout l'enjeu, de mon point de vue, qui doit permettre de résoudre cette équation économique, c'est d'avoir des filières qui vont se développer en parallèle des besoins et qui vont, de cette manière-là, par leur développement, leur croissance, permettre de réduire les coûts. Aujourd'hui, quand on est dans l'exception, forcément, c'est cher et il faut arriver à généraliser pour avoir des coûts plus raisonnables et permettre de sortir ces opérations de manière plus massive. Pour autant, notre rôle aussi, c'est d'arriver à chercher ces équilibres-là, et dans les opérations que nous menons, nous y arrivons. On arrive à sortir ces programmes, c'est aussi pour démontrer que c'est possible et pousser d'autres acteurs à le faire.
On ouvre le chapitre biodiversité maintenant, Soraya Amrioui. On part pour Tremblay en France, où vous menez en co-maîtrise d'ouvrage avec la métropole du Grand Paris, avec Paris Terre d'Envol également, une opération d'aménagement hydraulique, paysager et écologique autour d'un rue à ciel ouvert en Seine-Saint-Denis. De quoi à la fois renaturer et gérer les risques inondations. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce vallon du Saussais se situe au sud de la ZAC Aérolian, un grand parc d'affaires. Alors, Soraya Amrioui, jusqu'où l'aménageuse que vous êtes va pouvoir aller sur ce type de sujet? Quel modèle économique là encore pour arriver à faire ce type d'opération?
Là, on est vraiment dans quelque chose qui nous tient à cœur, puisqu'à la fois, on a une zone d'activité économique très importante, vous l'avez cité, c'est la ZAC Aérolians Paris, qui doit participer au développement économique du Nord francilien et qui est très attendue par les élus et par les habitants, parce qu'elle est pourvoyeuse d'emploi, elle est pourvoyeuse d'activité, mais elle doit se faire dans des conditions écologique, elle doit préserver l'environnement et elle doit limiter son impact sur les sols. Et donc, tout l'enjeu de cette opération, c'est d'avoir travaillé effectivement à s'inscrire dans l'environnement hydraulique du Saussais, qui est ce petit ruisseau qui va collecter les eaux pluviales de tout le nord francilien, Et donc, on a travaillé à ce que les aménagements de la ZAC limitent l'imperméabilisation des sols et maîtriser ainsi les eaux pluviales, maîtriser la pollution des eaux, le risque inondation. Et tout un travail a été réalisé avec effectivement des noues, des bassins de rétention qui permettent l'infiltration directe dans le sol, mais également l'aménagement du vallon, où nous avons donc à la fois ces enjeux hydrauliques qui permettent le fonctionnement de la ZAC, mais également un enjeu de développement de la biodiversité, de renaturation de ce site et de sa préservation, puisque les aménagements que nous réalisons s'inscrivent dans la durée et permettront de préserver à long terme le vallon.
Sur le modèle économique, un mot de comment vous articulez justement, peut-être vous appuyez sur la ZAC Air Alliance pour financer une partie de cet aménagement hydraulique ?
La ZAC contribue assez fortement aujourd'hui à la réalisation de cette opération. Elle finance pour moitié en fait l'aménagement du vallon. Le territoire participe également à cette opération financièrement, bien sûr. Il en est aujourd'hui le concédant, mais également la métropole du Grand Paris, vous l'avez dit, puisque c'était un petit peu l'innovation de cette opération. Elle permet également, elle cumule trois vertus de mon point de vue. Gérer les eaux pluviales de la ZAC, d'où la contribution. Participer à la biodiversité, au développement du vallon, c'est l'enjeu qui était en partie celui de la du territoire. Et en ce qui concerne la métropole, participer à la gestion du risque inondation. Et à ce titre, au titre de la compétence GEMAPI de la métropole, cette dernière a été amenée à contribuer. Ce qui a permis de diminuer le coût pour le territoire.
On parlait tout à l'heure du ZAN, il y a aussi le ZEN, le zéro émission nette de gaz à effet de serre. Là-dessus aussi, Grand Paris Aménagement essaye d'avancer, notamment sur la question des déchets de chantier, du réemploi. L'EPA Orsa, avec qui vous êtes fédéré, a piloté la déconstruction de la cité Gagarine à Ivry, qui a permis de revaloriser des gravats et de réemployer des équipements. Dans un autre genre, GPA pilote avec la ville de Sevran un projet transitoire d'économie circulaire destiné à réutiliser les terres excavées des chantiers du Grand Paris pour la construction en terre crue de nouveaux quartiers. Un mot de l'avancée de ce projet innovant et de cette expérience et aussi de sa réplicabilité, Soraya Amrioui.
Oui, alors aujourd'hui, le projet de cycle terre à Sevran que nous réalisons en partenariat avec la ville de Sevran, évidemment, avance très bien. Nous avons aujourd'hui une fabrique de terre crue qui est en cours de construction, qui va être installée dans la zone d'activité économique Charles Vergniaud à Sevran et qui va accueillir en effet les terres excavées d'un certain nombre de nos opérations que nous avons stockées sur les sites de nos chantiers du Nord francilien et qui va permettre de produire des briques de terre crue qui vont être utilisées dans différents projets. Aujourd'hui, l'enjeu pour cette fabrique, c'est de remplir son carnet de commandes. Donc, j'en appelle à toutes les bonnes volontés qui ont envie d'expérimenter l'usage de la terre crue dans la construction. Donc, c'est vraiment l'enjeu de demain. Et bien évidemment, Grand Paris Aménagement encouragera les promoteurs qui réalisent des projets au sein de nos opérations à utiliser ce matériau. Mais on fait feu de tout bois aujourd'hui, si je peux me permettre. La terre crue, on pourrait parler évidemment du chanvre que nous utilisons en profitant de la filière Seine-et-Marnaise dans notre opération de Seine-et-Marne à Triport. On pourrait parler effectivement de Gagarine et de ce chantier de revalorisation des matériaux à grande échelle qui est une première en Ile-de-France et qu'on a envie de dupliquer partout, qui a effectivement, vous l'avez dit, permis la réutilisation des granulats pour le béton, de mélange de béton et de briques, de remblais issus des chantiers de voirie et des réseaux, mais surtout, ce qui était particulièrement innovant, des objets de seconde œuvre. Donc, on a pu revendre comme ça des portes, des boîtes aux lettres, des radiateurs et tout un tas d'objets qui pourront trouver une nouvelle vie. C'est aussi les terres excavées de manière plus massive. On réfléchit à comment réutiliser de manière beaucoup plus massive et beaucoup plus structurée les terres excavées de nos opérations, d'abord au bénéfice de nos autres opérations et dans le cadre de partenariats stratégiques avec d'autres opérateurs qui peuvent en avoir l'usage. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on essaye de massifier ces innovations. Ça, pour nous, c'est l'enjeu des 5 prochaines années. Comment, à partir d'exemples concrets où on a pu prouver le bon fonctionnement et la bonne utilisation de ces idées, comment arriver à les massifier, à les développer? Je prends l'exemple de Gagarine, vous me demandiez les modèles économiques. En l'occurrence, aujourd'hui, on gagne de l'argent avec la déconstruction de Gagarine, ce qui n'était quand même pas du tout gagné. Notre objectif, c'était d'équilibrer d'équilibrer le modèle. Et finalement, ça nous a permis de tirer quelques subsides. Donc, c'est vraiment extrêmement vertueux. Et c'est ça qu'on a besoin de déployer massivement.
Je voulais vous interroger encore sur l'agriculture urbaine, avec notamment Garges-lès-Gonesse ou encore Taverny, donc des villes très très différentes qui sont engagées dans des types de projets très différents, mais le temps presse, donc on aura l'occasion de vous interviewer une prochaine fois là-dessus. Je voulais aussi vous parler du genre dans la ville, parce que vous avez mené une opération pilote dans le Bas-Clichy, donc ça sera très intéressant de vous entendre là-dessus, mais une prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Soraya Amri. Oui, je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de Grand Paris Aménagement. Humeur de Ville revient le mois prochain. D'ici là, vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur les sites internet de Radio Wémo ou de Cadre de Ville. Et si vous allez sur notre site, vous pourrez aussi retrouver notre récente interview de Stéphane Defaille, le directeur général de Grand Paris Aménagement. Une interview dans laquelle il nous parle entre autres de la manière dont GPA se lance petit à petit dans la copromotion. À bientôt.
Merci beaucoup.
Humeur de ville, une émission présentée par cadredeville.com, la plateforme d'information des décideurs des projets urbains. Lucie Romano et Rémi Cambeau.